Bonjour, bonjour. Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Je l'apprends, je le rappelle, 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, parfois définitive, parfois plus oubliable, ces petites images qui bougent sur les grands écrans, quasi exclusivement, oui je sais de temps en temps un bon DVD, mais si possible sur les grands écrans depuis maintenant beaucoup plus d'un siècle pour notre plus grand plaisir. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons nous replonger quelques années en arrière. Des années que peu d'auditeurs, je pense, de 24 notes secondes auront vécu, en tout cas auront vécu à l'âge adulte en espèce, les sombres années de la Deuxième Guerre mondiale qui fut certainement après et même pendant, à vrai dire, l'un des sujets les plus explorés du cinéma mondial. Je ne sais pas si quelqu'un s'est essayé, voilà qui est bien français, pardonnez-moi, de recenser tous les films consacré à la Seconde Guerre mondiale, qui s'y passe ou qui en parle, cela n'arrête toujours pas d'ailleurs, il en sort quasiment toutes les semaines sur nos écrans, et cela, eh bien, était vrai dès la Seconde Guerre mondiale, où on tourna déjà beaucoup de films qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale, mais après 1945, eh bien, ma foi, cela n'arrêta pas, et nous allons donc en évoquer quelques-uns de différentes époques, de différents genres, mais je crains bien essentiellement américains, en tout cas pour la plupart. Et nous allons commencer par un film de Franklin J. Schaffner, tourné en 1969, et qui racontait par le menu, il faut dire que 2h30, c'était déjà pas mal pour le faire, la vie, et plutôt la vie militaire, d'un personnage plutôt controversé de cette Seconde Guerre mondiale, alias le général George S. Patton, incarné magistralement dans le film par George C. Scott. Et donc le film, Patton, évidemment, s'appelait-il, nous racontait les exploits du général Patton, notamment en 1943, sa lutte à mort contre l'Afrika Korps de l'Allemand Rommel, quelque part en Tunisie, et ensuite aussi, eh bien, le débarquement en Normandie auquel il participa, et puis la jonction en mai 1945 avec les forces soviétiques, et puis ensuite, mais le film ne l'évoquait pas, sa vie à Berlin où il participa, eh bien, à l'occupation de la ville à l'issue du second conflit mondial. Le film prenait parfois quelques libertés avec la réalité historique, même si, en l'espèce, les scénaristes avaient été conseillés par rien moins que Omar N. Bradley, qui fut, pendant la Seconde Guerre, le bras droit de Patton, c'est bien ce que je voulais dire, et qui était interprété par Karl Malden dans le film. Donc, le dit Bradley, lui, était encore vivant, contrairement à Patton, et avait donc donné sa caution à un film qui était plutôt bienvenu, et au scénario duquel on voyait Francis Ford Coppola. Et oui, en 1969, Francis Ford Coppola n'était pas encore le grand réalisateur qu'il était destiné parrain aidant à devenir très peu d'années plus tard, mais il avait magistralement orchestré une saga. L'acteur George C. Scott incarnait si bien Patton qu'on lui octroya l'Oscar qu'il refusa. Des choses qu'on ne fait pas, que peu de personnes font en tout cas, mais c'était une personnalité plutôt controversée. La musique de ce film, les fidèles de 24 notes secondes le savent, était signée de l'un de nos favoris de tous les temps, en l'espèce Jerry Goldsmith. Alors nous allons écouter le générique de ce film. C'est une petite merveille, je vous en préviens, vous ne pouvez pas ne pas apprécier, ça craque peut-être sous la dent, mais c'est une magistrale démonstration musicale. Il y a tous les thèmes, il y a tout le personnage, il y a tout le film, tout cela en moins de 2 minutes dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà un extrait de la bande originale de Patton, de Jerry Goldsmith, allais-je dire, mais non, de Franklin J. Schaffner, mais la bande originale était signée de Jerry Goldsmith. Alors il y avait très très peu de musique dans ce film de 2h30, mais elle était toujours utilisée à bon escient, comme on dit chez les Arméniens à l'époque. Eh bien, on n'éprouvait pas le besoin de noyer les films sous les partitions, si je puis dire. Et Jerry Goldsmith, qui collabora à de nombreuses reprises avec Franklin Schaffner, le réalisateur, eh bien, s'y entendait à de nombreuses reprises, parmi lesquelles on ne peut pas ne pas citer certainement l'un des chefs-d'œuvre du dit Jerry et l'un des grands films du cinéma fantastique, La Planète des Singes, tourné en 1968, à vrai dire, le film qui précéda Patton dans la filmographie de Franklin Schaffner, une petite merveille avec Charlton Heston. Franklin Schaffner, évoquons-le aussi, un réalisateur un peu oublié, hélas, fut aussi celui de Papillon en 1973 ou de Ces garçons qui venaient du Brésil, The Boys from Brazil, en 1978. Un réalisateur assez parcimonieux, sa filmographie ne comporte pas un très très grand nombre de titres, mais plutôt bienvenu dans des genres très très différents. On le voit avec La Planète des Singes, avec Patton, avec Papillon et ce genre de choses, qui collabora donc à plusieurs reprises avec Jerry Goldsmith. Cela dit, ni Franklin Schaffner ni Jerry Goldsmith ne sont le sujet de 24 notes secondes pour ce jour, puisque le sujet, c'est la Seconde Guerre mondiale, évoquée au travers d'une filmographie plus qu'abondante, et nous allons revenir sur le sol français, si l'on veut, avec un film tourné en 1976 par Joseph Losey et qui réunissait dans les rôles principaux Alain Delon, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel, bientôt Michael Lonsdale et quelques autres. Ce film s'appelait Monsieur Klein et dans une histoire un peu à la Borghese, revendiquée comme telle d'ailleurs, on y voyait un Alsacien qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, profite de la détresse des populations juives. Eh bien, il en devient pris pour un juif, pardon, et il finira, après les détours tortueux qui sont aussi ceux de l'âme humaine, par être emporté en juillet 1942 avec 15 milliers de juifs parisiens par la fameuse, si l'on veut, rafle du Veldiv. Le tout était très très ambitieux et on sait gré à Alain Delon d'avoir permis la réalisation de ce film, non seulement en en étant le principal interprète, mais aussi par le biais de sa société de production en étant le financier. C'était le 25e film de Joseph Losey, réalisateur prolifique, lui aussi un peu oublié, peut-être pas l'un de ses films les plus connus, en tout cas l'un de ses plus subtils, une histoire tout à fait magistrale. La musique de ce film était co-signée d'Egisto Macchi et de Pierre Porte, et je vous propose, en écouter sans plus attendre, un extrait dans 24 notes secondes sur Divergence FM. Thank you. Voilà un extrait, alors ça craque encore un peu sous la dent, mais après tout, on est dans l'époque de la bande originale de Monsieur Klein, une bande originale co-signée par Egisto Macchi et Pierre Porte. Je ne saurais vous dire lequel a écrit précisément l'extrait que nous venons d'entendre, un film tout à fait passionnant, tout à fait glaçant, bien dans la manière de Joseph Losey, tourné en 1976 et qui permet de nous rappeler, des fois qu'on aurait oublié, qu'Alain Delon fut aussi un très grand acteur, vraiment un très grand acteur qui porta quelques films absolument fabuleux, signés Visconti et quelques autres, mais aussi signés de Joseph Losey. Nous poursuivons notre évocation de la Seconde Guerre mondiale avec quelque chose de tout à fait différent, de plus, comment dire, hollywoodien dans le ton, même si l'ensemble se passait quelque part en Grande-Bretagne, en l'espèce en 1944, alors que les Alliés s'apprêtent à débarquer en Normandie, eh bien, un espion allemand découvre que on a tenté de faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, et il va tenter d'en prévenir ses supérieurs. Alors évidemment, une telle chose risquerait de faire changer le cours de la guerre. C'est le prétexte du film, de la même manière que c'était le prétexte du roman ici adapté. Les deux s'appellent L'arme à l'œil, Eye of the Needle, un roman de Ken Follett, auteur américain de best-seller bien connu, et un film signé de l'estimable Richard Marquand, réalisateur trop tôt disparu, né en 1939 et mort en 1987, autant dire qu'il n'aura guère eu le temps de marquer les esprits. On lui doit, il me semble-t-il, l'un des épisodes de La Guerre des Étoiles, et on lui doit donc cette estimable arme à l'œil qui réunissait dans les rôles principaux Kate Nelligan, une actrice qui n'a hélas pas connu un succès à la mesure de son talent. On y voyait aussi Yann Bannon, et on y voyait aussi magistral dans le rôle de Henry Faber, alias Heinrich, dit Nadel, l'aiguille, parce qu'il le tue avec une aiguille, avec un stylet. On y voit donc le magistral, l'excellent, toujours présent sur nos écrans, Donald Sutherland, qui trouvait là un rôle à sa mesure, avec des facettes tout à fait différentes et tout à fait fascinantes, séduisant mais odieux, assassin mais amoureux. Le tout était fort classique, fort hollywoodien, l'ai-je dit, mais le tout bénéficiait d'une des dernières partitions du grand Miklos Rossa, l'un des grands de la musique que de films hollywoodiens des années 50. On lui doit Ben-Hur, on lui doit Le Roi des Rois, on lui doit Le Cid, on lui doit bien des choses, et on lui doit d'écouter sans plus attendre un extrait de sa partition. Ça s'appelle L'arme à l'œil, c'est de Miklos Rossa, et vous êtes toujours dans 24 notes secondes. Thank you. Le romantisme plus qu'échevelé de Miklos Rossa pour la bande originale de L'Arme à l'œil, un film de Richard Marquand tourné en 1981 d'après un roman de Ken Follett avec Donald Sutherland dans le rôle principal. Une musique qui fleure bon les années 50 pour un film qui se passait quasiment dans les années 50 puisque c'est la Seconde Guerre mondiale qui est au sujet de ce jour dans 24 notes secondes. Alors on va faire à la fois un petit accro chronologique et en même temps parfaitement pertinent, comment pourriez-vous en douter, en évoquant maintenant la bande originale d'un film tourné en 1981, toujours par Jean-Louis Comolli et qui réunissait dans les rôles principaux Claude Brasseur, Jacques Dutronc, Nathalie Baye, Andrea Ferréol, bref, une distribution plutôt prestigieuse pour un film qui se passait non pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pendant une guerre que d'aucuns conçurent et décrivirent comme une sorte de prémisse à cette Seconde Guerre mondiale, en l'espèce la guerre d'Espagne entre les républicains et les troupes franquistes. Et nous sommes donc en avril 1937, au moment où les soviétiques organisent un réseau de contrebande, si l'on veut, d'armes pour livrer aux troupes républicaines les armes qui leur font défaut devant les troupes franquistes. L'histoire est fort complexe qui mêle les amitiés avec les amours, les convictions avec les trahisons, le tout sur fond de reprise en main par le camarade Staline de la politique du parti communiste, de tous les partis communistes, le tout bien évidemment aussi dans la préparation de cette fameuse Seconde Guerre mondiale. Ma foi, avec une telle description, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plombant. Ce n'était pas le cas. Jean-Louis Comolli, critique et historien subtil du cinéma, fut aussi trop rarement, hélas, un réalisateur plutôt bienvenu. Et avec L'Ombre rouge, il livrait, il y a déjà bien longtemps, cela paraît un siècle alors que cela ne se fait même pas 30 ans, il livrait il y a bien longtemps un film politique, un film historique comme on n'en fait plus guère, avec, plaisir rare pour les amateurs de musique de film, une partition signée de Michel Portal lui-même, dont je vous prie d'écouter sans plus attendre un extrait un peu court. Hélas, vous êtes bien dans 24 notes secondes. Thank you. un extrait de la bande originale de L'Ombre Rouge, un film de Jean-Louis Comolli tourné en 1981, une musique du trop rare en tout cas pour la musique de film, Michel Portal. Alors nous évoquions en 1937 la lutte souterraine des soviétiques par rapport à la guerre d'Espagne et nous allons conclure cette émission, c'est un pur hasard, il faut bien l'avouer, en évoquant eh bien une autre bataille qui fut décisive pour la Seconde Guerre mondiale, ce genre de moment d'une certaine manière où tout peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et il faut bien dire que cette année-là, ou plutôt cet hiver-là, à Stalingrad, eh bien, c'est le sort en partie de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas sur le front Est, qui se joua dans une bataille à mort, il faut bien le dire, certainement l'un des plus grands carnages d'une époque qui en compta beaucoup. Une bataille absolument horrible qui a déjà été plusieurs fois évoquée au cinéma et qui le fut de assez magistrale façon, je dois l'avouer, par notre national Jean-Jacques Haneau, qui obtint pour l'occasion des moyens, ceux d'une super production, une super production dans les rôles principaux de laquelle on retrouvait Jude Law et la délicieuse Rachel Weisz. Le film est parfois entaché justement de son gigantisme, mais Jean-Jacques Haneau savait quand même y livrer une patte personnelle pour conter finalement l'histoire de deux tueurs d'élite, un Allemand et un Soviétique incarné par Jude Law, mais oui, ces gens-là savent tout faire, et dont la lutte à mort était quelque part, comme l'on dit maintenant, symbolique justement de ce qui se jouait dans le reste de la ville, dans le reste du pays, dans le reste du monde aussi, puisque si les Soviétiques n'avaient pas vaincu, ils ont vaincu. Qui pourrait en douter à Stalingrad ? Certainement le sort de la guerre en aurait été changé. La musique de ce film était signée d'un des plus grands compositeurs actuels de musique de film américaine. Les fidèles de 24 notes secondes le connaissent déjà. Je vais vous laisser profiter du générique de fin, une fois n'est pas coutume de ce film. Ah oui, j'ai quand même oublié de vous le préciser. Il s'agit de James Horner, il s'agit de 24 notes secondes et il s'agit donc de la bande originale du film Stalingrad. Voilà, camarades auditeurs, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, das Wiedersehen.